Derrière chaque exploit de l'intelligence artificielle se cache un carburant invisible, les données. On va voir pourquoi, sans elles, les meilleures idées restent de puissants moteurs, sans essence. Pour comprendre pourquoi le deep learning a vraiment décollé tard, on peut partir de quelque chose de très simple. Quand on apprend à reconnaître quelque chose, le nombre d'exemples compte énormément. Imaginez, un enfant qui a vu 10 chats dans sa vie ne reconnaît pas aussi bien un chat qu'un enfant qui en a vu 10 000. On le sent intuitivement. Plus on voit d'exemples, plus on sait repérer ce qui se ressemble, ce qui change, ce qui compte vraiment. Les réseaux de neurones, eux, apprennent selon cette même logique générale. Eux aussi apprennent à partir d'exemples. On leur montre des cas, encore et encore, et petit à petit, ils repèrent des régularités, des motifs, des ressemblances dans ce qu'on leur présente. Prenons un instant. Ça permet déjà de comprendre un point important. Si les résultats ont changé avec le deep learning, ce n'est pas forcément parce que les idées de base étaient entièrement nouvelles. Les grandes lignes existaient déjà. Ce qui a changé, c'est surtout l'échelle des exemples disponibles. Et là, quelque chose de décisif se joue. Dans ce cadre, on parle souvent d'apprentissage supervisé. Derrière ce mot, l'idée est assez simple. On entraîne un modèle avec des exemples déjà associés à une réponse attendue. Une image, par exemple, reliée à l'étiquette « chat ». Le système produit une prédiction, on la compare à l'étiquette et il ajuste ses paramètres. Autrement dit, il apprend en se trompant, en se corrigeant, encore et encore, grâce à ses exemples étiquetés. Mais il y a un problème, et il est de taille. Cette manière d'apprendre demande énormément d'exemples, vraiment beaucoup. Et pas seulement en quantité, il faut aussi que chaque exemple soit étiqueté correctement. Une image, une étiquette, des millions de fois. Avant Internet, constituer de tels volumes d'exemples était très difficile. Trop lent, trop cher, trop fragmenté. C'est cette contrainte structurelle qui explique, en grande partie, 50 ans d'échecs relatifs. Les algorithmes pouvaient exister, les idées étaient là, mais il manquait de carburant. Les modèles étaient comme des moteurs puissants, sans essence.
Puis la situation bascule. Internet arrive et devient une réserve gigantesque de contenu et d'interactions numériques. Chaque clic, chaque photo, chaque recherche laisse une trace exploitable. En parallèle, certaines entreprises se retrouvent très vite en première ligne. Google, Facebook, Amazon, dès les années 2000, accumulent des masses de données comportementales. Des milliards de traces d'usage, produites en continu. Ces données deviennent le carburant de leur modèle d'intelligence artificielle. Elles ne sont pas seulement nombreuses, elles sont produites jour et nuit, à très grande échelle, par les activités même des utilisateurs. C'est là que tout change. Le deep learning ne repose plus seulement sur une idée technique élégante. Il repose sur un environnement où les données deviennent abondantes, accessibles et exploitables à grande échelle. Un exemple rend ce basculement très concret, ImageNet. Ce corpus rassemble environ 1,2 million d'images, toutes étiquetées par des humains via Amazon Mechanical Turk. On voit apparaître, très clairement, une labellisation industrielle à grande échelle. On n'est plus dans la petite base de données bricolée lentement par quelques équipes de recherche. On passe à une production massive d'exemples annotés, organisée comme une véritable infrastructure. Et là, ce qui manquait auparavant saute aux yeux. Le point central, c'est donc ceci. Les réseaux de neurones n'ont pas gagné uniquement parce que quelqu'un a eu une meilleure idée au bon moment. Ils ont surtout commencé à disposer, enfin, des 10 000 chats qui leur manquaient. Mais cette évolution a une conséquence directe et elle est loin d'être anodine. Si la performance dépend fortement des données, alors ceux qui possèdent ces données ont un avantage structurel, durable. Les grandes plateformes disposent de masses de données que les autres n'ont pas, alors même que beaucoup d'acteurs ont besoin de ces données pour entraîner leurs modèles. Le résultat, vous le voyez venir, cela concentre le pouvoir entre quelques mains. Et cette concentration n'est pas un effet secondaire, quelque chose de séparé de la technique. Elle est liée à la manière même dont ces systèmes apprennent. Plus l'apprentissage dépend d'exemples massifs, plus la possession des données devient décisive. Et plus l'écart peut se creuser entre ceux qui contrôlent ces données et ceux qui en dépendent.